Orange, cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption, it's now.
Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez particulier, celui d'une menace cyber qui mélange un peu tout. Le piratage, la guerre psychologique, la géopolitique.
C'est ça. On va parler d'un groupe qui ne s'attaque pas seulement à des serveurs, mais qui essaye vraiment de s'infiltrer dans les esprits.
Et pour nous guider, on s'appuie sur une analyse très pointue du Bureau du cyber-renseignement, qui est une division, je crois, du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense.
C'est tout à fait ça. Et il faut préciser tout de suite que l'approche de cette analyse est assez unique. On n'est pas sur un simple rapport technique.
Ah non ?
Non. C'est un travail qui combine vraiment deux approches. D'un côté, ce qu'on appelle l'OSINT, le renseignement en source ouverte.
C'est-à-dire tout ce qui est public, en fait ?
Oui.
Les forums, les réseaux sociaux, les articles de presse.
Exactement. Un vrai travail de détective numérique, si vous voulez. Et de l'autre côté, on a des preuves qui viennent du HUMINT, donc le renseignement humain.
D'accord, là c'est plus confidentiel, ça vient du terrain.
Voilà, et ça, ça permet de donner du contexte, de la profondeur à tout ce qu'on trouve en ligne. On ne regarde pas juste le comment de l'attaque. On analyse les ressorts émotionnels, cognitifs, toute la stratégie d'influence derrière.
C'est une vision à 360 degrés donc, et il faut le souligner, tout ce qu'on va dire vient de ces sources ouvertes qui ont été vérifiées, croisées, et l'analyse est menée de manière totalement neutre.
C'est le principe fondamental. On est là pour comprendre, pas pour juger. Et le phénomène qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce groupe qui se fait appeler...
Golden Falcon. Alors, allons-y. Golden Falcon. Quand on regarde les sources, le portrait est déroutant. C'est le mot. Presque contradictoire. Qui sont-ils vraiment ?
Ce qui me frappe d'abord, c'est la multiplication des noms. On entend Golden Falcon Team, mais aussi des noms beaucoup plus techniques, comme Dusk Squad ou APTC-34.
Oui.
Alors, on a affaire à qui ? Des activistes un peu flamboyants ou des espions d'État ultra discrets ? Ça n'a rien à voir.
Et c'est justement ça, leur plus grande force. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. La meilleure image, c'est celle d'une constellation.
Une constellation.
Imaginez un système solaire. Au centre, il y a le noyau, une étoile très dense. Ça, c'est le noyau APT.
APT pour Advanced Persistent Threat.
Là, on parle du très très haut niveau, souvent lié à des États.
Tout à fait. Ce noyau, il est probablement russophone, actif dans l'ombre depuis 2014-2017 environ. Leurs opérations sont chirurgicales, très discrètes, low and slow, comme on dit.
S'infiltrent sans bruit et ils attendent ?
Exactement. Leur but, c'est l'espionnage pur et dur, surtout en Asie centrale, Kazakhstan, Afghanistan. Ils volent des secrets pour le renseignement stratégique, pas pour la gloire.
D'accord. Ça, c'est le noyau invisible. Mais alors, Golden Falcon, le bruit sur les réseaux, les revendications, ça vient d'où ?
Eh bien, ça, ce sont les planètes qui gravitent autour. C'est la périphérie activiste. Elle est apparue beaucoup plus récemment, vers 2023.
Et elle fait tout le contraire.
Tout le contraire. Cette façade, la Golden Falcon Team, est bruyante, provocatrice. Elle cherche la visibilité maximale. Et ses motivations idéologiques, elles sont polymorphes. Un jour pro-russe, le lendemain pro-palestinienne.
Attends, si je comprends bien. C'est comme si une agence d'espionnage se servait d'un groupe de cyberpunk comme d'un écran de fumée.
C'est une excellente image. C'est exactement ça. La périphérie, c'est le paratonnerre médiatique parfait. Pendant que tout le monde regarde les feux d'artifice, le noyau, lui, continue son travail d'infiltration en silence.
Pour que ce soit plus concret, prenons deux de leurs opérations. D'un côté, il y a cette campagne d'espionnage massive au Kazakhstan. Ça, c'est le noyau, j'imagine.
Sans le moindre doute. Une opération d'une sophistication incroyable. Ils ont ciblé des diplomates, des journalistes, des ministères. Le but était de cartographier les réseaux de pouvoir. Du vrai travail de service de renseignement.
Et à l'opposé, on a des actions beaucoup plus spectaculaires. Je pense à cette histoire de système de surveillance des eaux usées en France.
Voilà. Là, c'est la signature de la périphérie. Ils revendiquent en accès, ils publient des captures d'écran avec le pH, la température de l'eau.
Le dommage physique est nul, en fait.
Nul. Mais le message psychologique est énorme. C'est pareil quand ils revendiquent un accès à une usine de traitement de l'eau à Detroit. Le but, c'est pas le sabotage. C'est de dire, regardez, on est chez vous, on peut toucher à ce qui vous maintient en vie.
Waouh. On n'est plus dans le piratage pour l'argent ou les données. On est dans le piratage pour faire peur, pour jouer avec les nerfs d'une nation.
On entre en plein dans ce qu'on appelle la guerre cognitive. Leurs opérations techniques visibles ne sont que des prétextes, des leviers pour une manipulation psychologique bien plus vaste.
Et c'est là que la partie analyse cognitive de votre rapport prend tout son sens. Comment ils s'y prennent pour manipuler les esprits comme ça?
Ils maîtrisent plusieurs techniques, mais la première, la plus fondamentale, c'est le cadrage narratif, le framing.
C'est-à-dire?
Ils ne décrivent jamais leurs actions comme des cyber-attaques. Jamais. Ils les recodent. Ça devient des actes de justice, de résistance, de vengeance.
Ils se donnent le beau rôle, quoi.
Toujours. Le vocabulaire est extrêmement binaire, manichéen. D'un côté, les ennemis, les impérialistes, les sionistes, les régimes fascistes. De l'autre, les héros, les résistants, les combattants.
Ça efface toute la complexité.
Exactement. Il n'y a plus de débat moral ou technique possible. C'est le bien contre le mal. Et ça, ça leur permet de légitimer leurs actions auprès de leurs sympathisants.
Et ça mène au deuxième outil, la gestion de la peur. Une fois qu'on a l'ennemi, il faut faire peur à tout le monde.
C'est ça. Ils suivent un modèle psychologique connu, le PPM. En gros, c'est en deux temps. D'abord, on maximise la perception de la menace. Vos infrastructures vitales, votre eau, votre électricité, c'est des passoires. On est déjà dedans.
Le monstre sous le lit.
Voilà. Il crée un sentiment de vulnérabilité totale. Et ensuite, deuxième temps, il propose une action simple et perçue comme efficace.
Pour leurs sympathisants.
Oui. Le message, c'est « Vous aussi, vous pouvez agir. C'est facile. Rejoignez-nous sur Telegram et participez à une attaque DDoS. Votre clic a un impact. » C'est brillant parce que ça canalise l'angoisse en action militante. Ça donne l'illusion du pouvoir.
Mais on ne devient pas un cybersoldat juste en lisant un message. Comment ils embarquent des gens?
C'est leur troisième talent, la maîtrise de l'engagement progressif. La fameuse technique du « pied dans la porte ».
Ah oui.
Le parcours de radicalisation sur Telegram est très, très bien scénarisé. Ça commence toujours par des actions qui ne coûtent rien. Un like, un partage.
Des gestes minuscules.
Étape 1, un premier engagement public, même minime. Étape 2, on vous invite dans des groupes plus privés, plus exclusifs. Vous entrez dans un cercle d'initiés. Le sentiment d'appartenance grandit.
On se sent spécial. On fait partie d'un groupe.
On fait partie d'une élite, oui. Et là arrive l'étape 3. On vous propose des actions coordonnées, mais encore simples. Participer à des raids de commentaires, lancer une petite attaque des DOS. Chaque oui rend le non suivant plus difficile. C'est une mécanique d'endoctrinement redoutable.
D'accord, la maîtrise psychologique est impressionnante. Mais derrière, il faut bien une force de frappe technique qui soit crédible. Quelles sont les armes du noyau à péter?
On met face à un arsenal de niveau étatique. Très clairement. On a identifié des malwares sur mesure, comme un backdoor qu'ils ont nommé Harpoon. Une fois qu'il est en place, ils ont un contrôle quasi total sur la machine.
Et les sources mentionnent aussi des logiciels espions commerciaux, comme ceux de Hacking Team.
Oui, et ça, c'est très révélateur. Hacking Team, c'est une société qui vendait des outils de surveillance à des gouvernements. Leur code source a fuité en 2015. La plupart des groupes ont arrêté de l'utiliser.
Mais pas eux.
Non. Eux, ils ont pris ce code complexe, ils l'ont analysé, modifié, mis à jour. Ça prouve qu'ils ont une vraie équipe de développeurs, pas de simples utilisateurs. C'est une capacité très avancée.
C'est la différence entre savoir conduire la voiture et savoir la construire.
C'est exactement ça. Et il y a plus impressionnant encore. Les analyses suggèrent qu'ils ont des capacités SIGINT.
SIGINT, Signal Intelligence. Ça fait très film d'espionnage. C'est quoi concrètement SIGINT?
Ça veut dire qu'ils peuvent intercepter des communications qui ne passent pas par Internet. Des ondes radio, par exemple. Ça demande du matériel spécifique, des compétences pointues et sans doute un soutien logistique au sol. C'est un des indices les plus forts qui pointent vers un état derrière ce noyau.
Et toute cette puissance, ils l'appliquent comment sur leur cible de prédilection? Les systèmes SCADA?
Alors, les systèmes SCADA ou ICS, ce sont les cerveaux informatiques de nos infrastructures critiques. L'eau, l'énergie, les transports. Ils n'étaient pas conçus pour être connectés à Internet et c'est devenu leur talon d'Achille.
Et Golden Falcon sait exactement où frapper.
C'est leur spécialité. Souvent, ils prennent le contrôle de l'interface homme-machine, l'IHM. C'est l'écran que l'opérateur utilise pour ouvrir une vanne, par exemple. Et en contrôlant cet écran, ils peuvent agir sur le monde physique.
Mais là encore, l'objectif est plus psychologique que destructeur.
Exactement. Publier une vidéo sur Telegram où on voit le curseur de la souris bouger tout seul sur l'écran de contrôle d'une station de pompage en Pennsylvanie, c'est un effet de panique bien plus grand qu'une simple coupure d'eau. C'est une démonstration de force.
Et pour amplifier l'effet, ils s'allient à d'autres groupes,
Oui, il collabore avec d'autres groupes activistes pro-russes comme Z-Pentest ou Secteur 16 pour coordonner des attaques et maximiser l'impact médiatique.
Alors, la question qui vient tout de suite, c'est quoi la suite? Quel est le risque concret, notamment pour l'Europe?
On peut dessiner deux grands scénarios. Un qui est le plus probable et un autre qui est beaucoup plus dangereux.
Commençons par le plus probable.
Le plus probable, c'est que ce modèle hybride continue. Le noyau APT reste dans l'ombre, concentré sur son espionnage stratégique. Et pendant ce temps, la façade Golden Falcon mène des attaques d'opportunité à haute visibilité contre les pays blottants, la France, les États-Unis.
Le genre d'attaque qu'on a déjà vu, donc.
Fuite de données, défiguration de sites, de brèves intrusions dans des systèmes industriels.
C'est ça. Des attaques de faible intensité, mais conçues pour un impact médiatique et psychologique maximal.
L'idée, c'est d'entretenir un climat de tension permanente.
C'est déjà un tableau assez préoccupant. Quel est le scénario le plus dangereux?
Le scénario le plus dangereux, c'est celui d'une convergence totale. Celui où le mur entre le noyau et la périphérie s'effondre.
C'est-à-dire?
Imaginez que les accès silencieux que le noyau a établis depuis des années dans nos infrastructures critiques soient soudainement mis à disposition de la force de frappe médiatique de la branche activiste.
Là, on changerait complètement de dimension.
On serait dans un scénario de guerre hybride parfaite. Imaginez au cœur d'une crise géopolitique une attaque coordonnée sur les réseaux d'eau et d'énergie dans plusieurs pays européens en même temps.
Et ils n'auraient même pas besoin de pirater en direct?
Non, ils n'auraient qu'à activer des malwares dormants, des bombes à retardement logiciels, placé des mois ou des années à l'avance par le noyau.
L'impact serait
dévastateur. Absolument. On parle de panne massive, de panique sociale généralisée, qui serait attisée en direct sur les réseaux par la branche activiste. Le vrai dommage, au-delà des pertes économiques, ce serait une érosion profonde de la confiance des citoyens dans leur gouvernement. La victoire ultime de la guerre cognitive.
Donc pour conclure, Golden Falcon, ce n'est pas juste un groupe de hackers de plus. C'est vraiment l'archétype d'une nouvelle menace. Une menace hybride, où le code, la propagande et la stratégie d'État sont impossibles à démêler.
C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, je crois. La vraie bataille, ce n'est peut-être plus seulement de savoir comment protéger nos serveurs. La question, c'est de savoir comment on se défend contre une guerre cognitive qui instrumentalise nos propres peurs, nos propres biais. Quand le but d'une cyberattaque n'est plus de détruire, mais de semer la peur, où se trouve la véritable ligne de front, Amy?
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.